carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Roland Recht, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, historien de l'art, et nous verrons plus tard ce que cela recoupe, spécialiste de l'époque médiévale, professeur au Collège de France, et vous venez de signer un livre intitulé « À quoi sert l'histoire de l'art ?» aux éditions textuelles, livre d'entretien avec Claire Barbillon, directrice des études à l'École du Louvre, où il est surtout question de la place de l'histoire de l'art dans notre société, dans notre organisation politique et dans l'enseignement supérieur et dans l'enseignement général. Venons-en tout de suite peut-être à l'actualité, si vous le voulez bien. Actualité qui est la création aux Émirats Arabes Unis, dans la ville d'Abu Dhabi, d'un Louvre bis. Cette création a suscité beaucoup de polémiques et des démissions à la chaîne. Est-ce que cet événement est le paroxysme de la crise que vous dénoncez ou son simple révélateur? Comment est-ce que vous le vivez, cette création?
Je dirais que ce qui se passe avec le Louvre et les musées français et l'attitude, d'une façon générale, de la classe politique par rapport au système symbolique que constituent les musées est, à mon avis, malheureusement, un symptôme d'un mal beaucoup plus grand dont nous aurons encore peut-être l'occasion de reparler. J'aimerais avoir avec vous d'autres rendez-vous ici intellectuels que celui-là.
Vous serez bienvenue.
Mais en tout cas, je crains que ce soit encore d'actualité et que même les événements futurs à venir autour de ces questions liées à la mondialisation deviennent de plus en plus difficiles à conceptualiser, parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est un événement, ce sont des événements qui brutalement nous confrontent à des situations que nous n'avions absolument jamais imaginées. Moi, je ne me considère pas du tout comme un prophète en ayant écrit dans ce livre des choses qui malheureusement s'avèrent aujourd'hui encore plus terribles, plus délicates que ce que j'avais imaginé. Mais je pense qu'on vivra encore des situations analogues. Je crains que les hommes politiques qui ont aujourd'hui la responsabilité de ce pays n'aient pas une opinion très différente que celle qu'avaient ceux qui étaient aux affaires il y a encore quelques mois. Je crois qu'il y a une logique, malheureusement.
Qui est une logique économique, c'est voilà, ça qui préside.
Voilà, absolument, qui est une logique économique qui utilise des systèmes symboliques, là en l'occurrence il s'agit d'un musée, ou deux musées, ou du patrimoine de manière plus générale, qui utilise ces systèmes symboliques, je dirais, pour leur réinsuffler une valeur d'usage et une valeur d'échange. La valeur d'usage était jusqu'à présent celle des objets du musée ou celle du patrimoine monumental, visité par des millions de personnes qui viennent en France tous les ans, vous le savez. La France est le pays le plus visité pour son patrimoine. Mais la valeur d'échange se limitait à la fois, je dirais, des entrées très nombreuses, mais aussi une aide de l'État. L'État, finalement, légiférant sur tout un ensemble de modalités dans lesquelles s'inscrit la politique muséale et la politique patrimoniale. Or, soudain, l'État déclare qu'il s'empare d'une certaine façon de ce patrimoine pour le monnayer. Donc, en considérant à la fois il est amovible, il est extrêmement mobile et il peut être aliéné. On imagine très bien l'étape suivante qui serait la fin définitive de ce statut d'inaliénabilité qui est celui des pièces de musée, des œuvres d'un musée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les revendre. Une fois qu'elles sont achetées, qu'elles sont acquises, elles le sont par un ensemble de procédures qui figent définitivement leur statut. Bon, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose. À mon avis, on n'est pas très loin de la fin de ce système, qui serait évidemment extrêmement grave, parce que ça voudrait dire que, comme dans les musées américains, mais eux sont privés, on peut vendre des œuvres. Et on peut, demain, un conservateur qui aura envie de vendre les peintures de Poussin du Louvre, il pourra les vendre. Et un autre conservateur qui suivra aura envie de... aimera Poussin, voudra racheter des Poussins. Enfin, on est dans un système qui est d'une totale absurdité parce qu'il n'est plus contrôlé.
C'est-à-dire que l'historien d'art se retrouve, ou le conservateur, et nous verrons plus tard la différence, est de plus en plus en porte-à-faux avec le politique qu'il ne l'était pas auparavant.
Oui, d'une certaine façon, le politique a commencé à s'intéresser aux musées à partir du moment où les musées ont été effectivement considérés comme une source possible de revenus. mais uniquement par les entrées, j'allais dire les produits dérivés, toute cette mise en marchandise, d'une certaine façon, de tout un ensemble de choses qui tournent autour du musée, les catalogues, les cartes postales, enfin, bon, tout ça génère quand même des fonds considérables, des rentrées considérables.
Et pourquoi pas ?
Et pourquoi pas ? Ça, c'est tout à fait sain, à condition que l'on reste toujours dans le respect des œuvres qu'on reproduit ou qu'on... voilà. Donc, tout ça est tout à fait logique. Mais... il se dessinait déjà, si vous voulez, dans les années, fin des années 80, début des années 90, un gauchissement qui faisait que, par exemple, certains responsables d'établissements, de grands établissements, je pense à Versailles, ces responsables n'étaient plus pris dans le corps des conservateurs, qui avaient acquis toutes les compétences nécessaires pour cela, mais dans le corps des énarques, et qui étaient là comme des gestionnaires, et non plus comme des conservateurs de collection. Et là a commencé une forme de dérive, qui s'est amplifiée ensuite d'une manière tout de même très considérable, il faut le dire, même si là il est question de personne, nommément. C'est qu'à partir du moment où le président-directeur du Louvre, qui n'est pas un énarque, qui est un conservateur, sorti du rang des conservateurs, donc issu de ce corps de conservateurs qui devrait être vigilant quant à la vie des collections, à leur conservation, etc., à leur mise en valeur, il a donné, lui, l'exemple d'une possible hémorragie des collections qui pourrait passer un certain nombre de mois à Atlanta, etc. Donc, les politiques s'est emparé de cette affaire en se disant, mais finalement, nous avons là un apprenti sorcier, nous allons faire comme lui, nous allons faire mieux que lui. Et Abu Dhabi est un merveilleux exemple, merveilleux exemplaire par les sommes considérables qui sont en jeu, de cette façon, de ce que j'appelle une manière de brader le patrimoine au plus offrant.
Alors, là-dedans, quel rôle peut jouer un historien d'art ? Vous êtes professeur au Collège de France, vous avez été universitaire et conservateur successivement dans votre vie. Oui. Vous n'êtes pas le seul à tenir ce discours.
Ah non, sans doute pas, heureusement, parce que si j'étais le seul, comme le disait un ministre, nous étions trois à l'origine, c'est-à-dire mes deux collègues Cachin, Claire et moi, pour signer ce texte dans Le Monde, qui a fait l'objet de tout un ensemble de débats, et le ministre a déclaré que nous étions une poignée de grincheux. Bon, fort heureusement, la poignée de grincheux. Là, si j'étais seul, ce serait une toute petite poignée de grincheux. Mais heureusement, il y a eu entre 4 et 5 000 signataires d'une pétition qui a fait suite à notre texte, qui montre que nous ne sommes pas les seuls, je ne suis pas le seul. Je dirais même que ce qui est extrêmement rassurant, c'est que parmi les gens qui se sentent au premier chef concernés par ces mesures, par ce dispositif dû aux politiques, les premières personnes sont les plus jeunes conservateurs. Et souvent, ce sont des conservateurs de région qui sont conservateurs dans des musées qu'on pourrait considérer comme n'étant pas immédiatement concernés par ce problème. Les musées de province, comme on les appelait autrefois. Or, non, ils mesurent très bien à quel point cela peut les concerner demain à une autre échelle. Si le politique a tout pouvoir sur le patrimoine, que fera le conservateur, sinon être un petit gestionnaire, une mission de gestion quotidienne pratique, assurant, j'allais dire, la sécurité de ses collections, et encore. Mmh. Vous voyez, donc, le conservateur, l'historien de l'art, puisque tout conservateur de musée est un historien de l'art, se sent, je crois, fortement concerné. Je rencontre tous les jours des collègues plus jeunes, âgés, qui me disent qu'à quel point ce combat leur paraît absolument nécessaire, même si nous sommes tous un petit peu, momentanément, je dirais, découragés par la cécité des politiques face à ces problèmes. Mais c'est vrai que là, ils ont de leur côté tout de même un contingent d'historiens de l'art qui considèrent, qui n'est pas, à mon avis, majoritaire, loin de là, mais qui considèrent qu'il faut passer par cela, parce que la mondialisation est tout simplement une sorte de fatalité, et que par conséquent, si on arrive le premier à la caisse, c'est mieux que d'arriver en seconde ou en troisième position. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de musées en Europe, je l'expérimente par ailleurs, qui sont sur la même voie, qui sont en train d'essayer d'être les premiers en Chine, dans les Émirats ou ailleurs, ou déposer leurs œuvres, les œuvres dont ils ont la charge pendant quelques mois, voire quelques années.
Alors, ce que vous mettez en évidence dans ce livre, c'est que cette évolution n'a pas seulement des conséquences sur l'œuvre d'art en elle-même, sur son transport et puis sur sa valeur fiduciaire, c'est aussi une conséquence sur l'histoire de l'art en général et sur la façon, forcément, du coup, dont la société voit son œuvre d'art. Ne serait-ce que dans la façon dont ensuite ces œuvres sont exposées et la multiplication des expositions temporaires aussi, par exemple, qui sont un autre volet de ce même mouvement. Vous dites que ces expositions temporaires sont à l'heure de la démocratisation de l'art.
Oui, je pense. Parce que, bon, des expositions temporaires, il y en a toujours eu. Enfin, il y en a eu depuis pratiquement que les musées existent, ou presque. Une exposition temporaire est, par définition, un enjeu de l'histoire de l'art. Je dis vraiment de l'histoire de l'art, c'est-à-dire de la discipline. Pourquoi ? Parce qu'une exposition temporaire permet, durant un temps limité, de réunir des œuvres qui, sans cela, sont dispersées dans des collections privées et publiques de par le monde, et permet des confrontations, des comparaisons formelles, précises, parfois des campagnes d'examen en laboratoire, qui aboutissent à des catalogues, vous le savez, qui sont un autre aspect de la production de l'histoire de l'art, qui aboutissent à des catalogues qui permettent vraiment de faire le point de, rappelez-vous, il y a quelques années, cette reconsidération du corpus de l'œuvre de Rembrandt, où tout à coup on a désattribué des dizaines de Rembrandt aux grandes dames d'un certain nombre de conservateurs. Mais c'était le résultat d'un travail extrêmement rigoureux. Et ce qu'il faut voir, c'est que l'histoire de l'art, c'est ça. Et l'histoire de l'art est à l'origine de cet extraordinaire développement des musées, de cet extraordinaire développement des expositions temporaires. Et la voilà, tout à coup, j'allais dire, non seulement mal récompensée, mais même à la limite écartée du succès que connaissent aujourd'hui les musées grâce à ce travail qui est fait depuis 30-40 ans par les conservateurs de musées. Je dis depuis 30-40 ans, je ne veux pas dire qu'avant on ne travaillait pas, mais depuis 30-40 ans, cette activité éditoriale et en même temps intellectuelle qui consiste à préparer des expositions, c'est de plus en plus développé. Donc c'est là qu'on peut juger réellement le changement de situation. Donc les expositions temporaires ont toujours existé, elles sont utiles, elles sont nécessaires, et les prêts, eux aussi, apportent vraiment quelque chose. Alors on en était arrivé, durant ces 20 dernières années, à limiter d'une manière parfois drastique le prêt d'œuvres considérées comme extrêmement fragiles. Je pense par exemple au dessin, qu'il ne faut pas exposer plus de 3 mois, 14 semaines très exactement, et pas avec une fréquence inférieure à 3 ans. Bon. C'est une très bonne chose. On avait peu à peu limité, voire interdit, le prêt de peintures sur panneaux de bois, donc qui sont des œuvres, par exemple des primitifs italiens, des choses comme ça. Ça me paraissait aussi relativement judicieux. Maintenant, tout cela est totalement balayé. Les conditions nouvelles qui sont faites à ces accueils d'œuvres d'art venues du Louvre, par exemple à Abu Dhabi, piétine complètement toute cette déontologie qui avait été établie. Et d'abord, vous savez que ce sont des pays qui ont quand même des conditions climatiques très différentes des nôtres. Les transports, n'en parlons pas. Et quand on a été directeur de musée, j'ai dirigé 8 musées pendant 9 ans, je sais ce que c'est que les transports des œuvres d'art. Et c'est là que les œuvres souffrent le plus. C'est au cours des transports. Donc tout ça, je vois très mal comment on peut s'engager en tant que conservateur à veiller à ce qu'il n'y ait pas le moindre dérapage. Sans compter le dernier point, puisque vous me posez une question sur les expositions temporaires. Les expositions temporaires sont des projets scientifiques. Que dire d'expositions temporaires comme celles qui vont être conduites à Abu Dhabi, en tant que valeur scientifique, si nous savons déjà d'avance qu'on va en exclure toutes les représentations de nus? Ce qui est tout de même, ce qui fait rire, bien sûr, nous avons envie de vous souriez, je dis ça, mais sans plaisanter, malheureusement. C'est une des conditions que les Émirats ont mises à ces prêts et à ces organisations d'exposition. Alors, un ministre a même eu cette merveilleuse formule du nu calme. Nous allons leur envoyer que des nus calmes. Moi, j'attends qu'on me démontre ce que c'est que ce concept de nu calme.
Qu'est-ce qu'un nu excité?
Oui, non, mais c'est, on croit que tout de même rêver par moment. Donc, c'est, comment voulez-vous imaginer la conception d'exposition scientifique quand de tels interdits sont mis en avant dans une collaboration dite scientifique, dite d'égal à égal entre deux pays?
Nous marquons une toute petite pause.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Académie. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard-Flavigny, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission Au fil des pages. Le bibliologue, une rubrique de Canal Académie, à écouter et télécharger sur canalacademie.com.
Roland Recht, en quoi est-ce que tout ce que nous venons de dire met à mal l'histoire de l'art en tant que telle? Est-ce que vous avez du mal à travailler en tant qu'historien d'art, tout simplement?
Je ne peux pas dire cela parce que ce serait vraiment de très mauvais goût. Je suis dans une position où, bien sûr, je travaille avec beaucoup de facilité, que ce soit au Collège de France, que ce soit à l'Institut de France. Non, on peut travailler, on peut dire aussi ce qu'on pense, ce qui est tout de même réconfortant, que ce soit sur, dans des journaux ou sur des chaînes de radio. Mais ce qui est difficile, c'est que de plus en plus, un domaine, celui de l'art, qui se voit utilisé, instrumentalisé à tant de niveaux, de si nombreuses situations, dans des contextes absolument qu'on n'avait même pas envisagé, imaginé il y a 20, 25 ans, 30 ans, comment cet art peut-il encore conserver sa valeur à la fois, je dirais, d'objet, parce que ce sont les œuvres d'art, ce sont d'abord des objets, c'est-à-dire des matières, des choses matérielles, donc qui peuvent s'abîmer, qui peuvent s'altérer, et qui s'altèrent très facilement, et elles sont uniques. Ce que tout le monde oublie dans cette affaire, c'est que l'œuvre d'art est unique. Et que si l'historien de l'art travaille sur les œuvres d'art, c'est pour essayer de comprendre leur signification. Ça, c'est le travail de ce que j'appelle l'herméneutique, qui est le propre de l'histoire de l'art. Nous sommes des herméneutes. Bien. Alors, essayer de comprendre la signification d'une œuvre d'art, ça signifie partir de son apparence pour arriver à une possibilité d'interpréter ce à quoi elle a été destinée, à quoi elle a servi, comment elle a été lue, comprise par les hommes qui l'ont achetée ou qui l'ont commandée, par les artistes qui l'ont créée. C'est tout un ensemble, tout un faisceau d'explications qui peuvent conduire à la mise en évidence d'une signification de l'œuvre d'art. Ça, c'est notre travail. Chaque œuvre étant unique, nous avons aussi, j'allais presque dire, une sorte de devoir de piété vis-à-vis de ce caractère unique de l'œuvre, parce que nous ne pouvons pas l'étudier au-delà de sa limite matérielle. Je m'explique. Il y a quelques années, il s'agissait d'étudier pour moi un ensemble de sculptures dans lesquelles il y avait des reliquaires. Donc, dans la sculpture en bois, il y avait des reliques. Et on a découvert cela par des radios. On a vu qu'il y avait une espèce de petit flacon, on a vu qu'il y avait un phylactère sur lequel il y avait des inscriptions qui n'étaient pas visiblement uniquement des authentifications de reliques. Vous imaginez l'excitation de l'historien de l'art qui va peut-être savoir quel était le sens de cette œuvre, qui l'a faite, peut-être même le nom de l'artiste. Enfin bon. Et il était impossible d'y toucher pour des raisons conservatoires. Si nous avions enlever cette petite boîte, cette petite porte qui ouvrait cette boîte, nous aurions risqué d'abîmer un petit fragment de la polychromie du XVe siècle de cette œuvre. Donc nous avions renoncé. C'était une décision sage. Vous voyez comment l'historien de l'art a aussi des limites. C'est-à-dire il y a un moment où la fragilité, le fait qu'une œuvre est quelque chose de... C'est un tout, c'est un monde en soi. Donc ce monde ne peut pas être altéré d'aucune manière, il ne faut pas le toucher. Donc, dans ce sens, déjà, notre travail se sent menacé parce que la fragilité des œuvres est une donnée évidente et que la multiplication des voyages, des déplacements, des prêts lointains, dans des conditions climatiques difficiles, tout ça va multiplier les chances pour les œuvres d'être abîmées. Nous assistons, il faut bien le dire d'une manière générale, à une altération progressive, mais extrêmement lente des œuvres d'art. Et il faut bien vous imaginer, je prends un exemple. Les grottes de Lascaux. Les grottes de Lascaux, elles ont été découvertes. Regardez avec l'émerveillement des hommes qui découvrent une œuvre d'art qui n'a jamais été vue que par des hommes il y a quelques milliers ou dizaines de milliers d'années. Et on a décidé de les fermer au public. Pourquoi ? Parce que si le public les fréquentait, il n'y aurait plus de peinture dans les grottes de Lascaux. Bon. Donc ça veut dire que là, nous avons, d'une manière un peu abrupte, mais réduite dans le temps, un phénomène qui concerne toutes les œuvres d'art du monde entier. C'est-à-dire que la fréquentation excessive des musées, des monuments, accélère leur vieillissement. Et que l'accélération de leur vieillissement, ça veut dire leur mort, leur fin se rapproche de nous. Donc ça, il faut que nous sachions. Seulement, cette fin des objets, elle est tellement lointaine dans le temps que aucun conservateur aujourd'hui ne se sent responsable à ce point-là. Sinon, il fermerait immédiatement son musée et lui-même n'irait plus dans les salles, de peur de respirer et qu'il contribue à cette altération. Mais il faut voir cela dans ces termes. C'est-à-dire que nous avons tous la responsabilité d'objets qui témoignent de la création depuis les temps les plus reculés, mais c'est une responsabilité que, au fond, nous ne mesurons pas entièrement dans sa plénitude, parce que nous la repoussons, nous la rejetons sur nos descendants, les descendants de nos descendants, et que ces objets vivront encore bien 3000 ans, 10 000 ans, oui. Voilà.
Et c'est un paradoxe dans une société qui regarde beaucoup vers son passé, et qui est très respectueuse, exactement, normalement, de son patrimoine.
Exactement. Toutes les thématiques autour de la mémoire, ou même les monuments qui commémorent d'une certaine façon l'existence de tels souverains ou de l'existence de tels moments de l'histoire qui sont commémorés en tant que tels, mais qui sont aussi des monuments d'art. Effectivement, nous en sommes friands. On a l'impression que, vous regardez les journées du patrimoine, les gens se précipitent dans les salons de l'Élysée avec une avidité extraordinaire. Mais je crois qu'en fait, paradoxalement, nous contribuons par ailleurs à l'accélération de la fin. Après tout, on pourrait déplacer ce débat sur le plan de l'écologie et dire un peu la même chose. Après tout, on n'a jamais autant parlé de la nature. Si vous regardez l'activité éditoriale et sur les jardins, sur la nature, sur la notion de nature, ça inquiète beaucoup, enfin ça m'inquiète beaucoup, parce que je me dis que dès qu'il y a une telle fébrilité, ça veut dire que quelque chose est en train de partir, quelque chose est en train de disparaître. Et par ailleurs, en effet, les écologistes nous disent, enfin les écologistes ou les politiques soucieux d'écologie, parce qu'il ne faut pas forcément être écologiste, nous disent, mais il faut veiller à ceci, il faut limiter cela, l'effet de gaz. Bien, mais on a toujours l'impression qu'il y a à la fois une fuite en avant et en même temps tout un ensemble de dispositifs,
de discours
voudraient expliquer qu'il faut faire très attention à tout ça, que c'est très précieux, etc. Mm. Donc c'est un paradoxe qui est celui de notre temps, peut-être.
Mm. Je vais peut-être trop loin, mais est-ce que ce hiatus entre le politique et l'historien d'art ne vient pas du fait que l'histoire de l'art est assez récente, que vous n'avez pas assez pu, en tant que...
Discipline.
Discipline. Vous n'avez pas pu assez inscrire votre marque et vos idées ?
Alors, vous posez une question très délicate, parce que quand vous dites « vous », en effet, vous entendez la discipline, l'histoire de l'art, mais j'ai envie de dire la discipline en France. Mmh. Parce qu'il se trouve qu'en Italie, c'est pas du tout ça. Les historiens de l'art en Italie ont... J'espère que je peux parler au présent, parce que quand je lis ce qu'écrit Salvatore Settis récemment sur le patrimoine, le sort du patrimoine chez lui, je me dis que c'est peut-être ça ne durera plus très longtemps. Mais enfin, les Italiens ont été jusqu'ici beaucoup plus sensibles au discours des historiens de l'art, en particulier d'ailleurs des historiens de l'architecture, très sensibles aux propositions qu'ils ont pu faire, par exemple dans des schémas urbains récents. Où il y a 20 ans, où il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, les historiens de l'art avaient une place dans la conception de ces schémas urbains. On demandait leur avis, pas seulement de l'architecte des monuments historiques, mais de l'historien de l'art, qui en tant qu'historien de l'art avait une vision en effet tout à fait particulière. À la limite, en Allemagne, c'est un peu la même chose. Les Allemands ont toujours accordé une grande attention à ce que les historiens de l'art puissent donner leur avis dans des instances qui ont droit de décision sur l'avenir du patrimoine. Et Dieu sait si le patrimoine allemand a été quand même extrêmement... a été beaucoup détruit, même s'il n'a jamais été aussi important que le patrimoine de notre pays. Alors, c'est une situation, c'est une singularité française. Ce serait beaucoup trop long de vous expliquer toutes les raisons historiques de cela. Mais pour simplifier, je crois qu'il faut en effet reconnaître que dans notre pays... il y a peut-être eu, peut-être que l'histoire de l'art est née dans des conditions trop conflictuelles, c'est un peu ce que j'explique d'ailleurs dans mon livre, dans des conditions trop conflictuelles où tout de suite il était question d'institution, non pas d'une discipline et de ses atouts, de ses enjeux théoriques, méthodologiques, etc., mais essentiellement de savoir quelle institution va représenter l'histoire de l'art, ou quelle institution va intégrer l'histoire de l'art. L'école des Chartes, par exemple, l'école des hautes études, la Sorbonne très tard, comme vous le savez peut-être, tout à fait à la fin du 19e siècle, début 20e. Et voilà où était le problème, de savoir qui ferait quoi. Alors que le problème est, à mon avis, beaucoup plus simple, dans les pays où il n'y a pas à la fois... Je n'ai rien du tout contre l'école des Chartes, rassurez-vous, c'est pas ce que je veux dire, mais où il n'y a pas des grandes écoles, où le syndrome de la grande école ne rend pas impossible une sorte de vie permanente de la discipline, de remise en cause permanente de la discipline. Ce qu'il a fait que la discipline a été découpée comme ça en spécialités, par exemple l'école des chartes, c'est les textes, les monuments, essentiellement, où l'école du Louvre avait un autre type de responsabilité, un type de formation, ou l'université, et donc des découpages qui font que très vite, les gens se sont un peu regardés en chien de faïence, et s'est ajouté à cela une impossibilité de passerelle entre le monde des musées et le monde de l'université. Donc les universitaires restaient dans l'université, les hommes de musée restaient dans les musées, les seconds convaincus que sans le contact quotidien avec les objets, on ne peut pas faire d'histoire de l'art, les premiers convaincus que sans théorie et sans réflexion méthodologique, comme ils le font, on le fait à l'université, on ne peut pas faire d'histoire de l'art. Avec ce type d'attitude, on a multiplié les cloisons au lieu d'unir à la fois des efforts, mais surtout, je dirais, au lieu de créer des débats, des discussions, des échanges entre ceux qui pratiquaient l'histoire de l'art dans tous ces champs professionnels différents. Et ça ne s'est pas passé comme ça à l'étranger non plus. Vous avez de nombreux professeurs en Allemagne qui sont conservateurs de musées. Vous avez aux États-Unis des conservateurs de musées qui sont en même temps professeurs d'université et inversement.
Et vous avez été professeur et conservateur.
Oui, mais c'est, je dirais, à l'époque où je l'ai été, j'étais un cap quasi exceptionnel. Nous étions très très peu nombreux à avoir fait ce passage. Et je peux vous assurer qu'au début, il n'a pas été très facile, parce qu'on m'a vu arriver dans les musées un peu comme un intrus. Bon, ça, maintenant les choses sont plus faciles, enfin plus faciles. Disons qu'il y a un certain nombre de collègues qui viennent des musées dans l'université, et inversement. Donc ça, c'est très bien. Mais ce n'est pas du tout facilité par les structures. Les structures rendent encore cela très difficile pour des questions de carrière. Simplement parce que l'université dépend du ministère de l'Éducation nationale et les musées, comme vous savez, de la culture. Voilà.
Roland Recht, dans ce rapport entre la société et ses œuvres d'art, il y a la question que vous soulignez très bien dans votre livre « À quoi sert l'histoire de l'art ?», la question de l'enseignement. Vous dites que, contrairement par exemple à la musique dans les collèges, l'art est seulement vu dans sa pratique et très peu enseigné le regard que l'on peut porter sur une image et sur une œuvre.
Oui.
Comment ça se fait qu'on est en retard comme ça en France ?
Là aussi, je n'ai pas vraiment le sentiment qu'on puisse parler de retard. C'est un malentendu. Oui, ça peut paraître bizarre d'interpréter. C'est pas très scientifique de parler de malentendu. Mais je pense que c'est de cet ordre-là. Il y a eu un moment, après 68, où la possibilité était donnée d'introduire dans l'université un enseignement d'histoire de l'art, comme en Italie, comme en Allemagne à l'époque. Et cette possibilité passait nécessairement par la mise en place d'un CAPES et d'une agrégation d'histoire de l'art. Bien. À l'époque, j'étais tout jeune assistant, mobilisé dans une commission, la commission Edgar Faure. Je ne sais pas si ça vous dit encore quelque chose.
Tout à fait.
C'est un homme historique maintenant, mais enfin, tout ça est quand même très très loin, ça paraît extrêmement loin. Et nous étions chargés de réfléchir sur cela. Et puis tout à coup, est arrivé, d'une façon un petit peu, quasi militaire, un autre projet. Un projet qui a emporté l'adhésion des ministres de l'Éducation nationale, qui les a séduits, parce qu'en même temps, ça permettait de résoudre un problème. Les professeurs de dessin ont trouvé que vraiment, ils étaient un peu sclérosés, qu'ils ne faisaient rien de ce qui était attendu par les élèves. Ben, au fond, si on réformait le professorat de dessin, donc on ne crée pas un nouveau CAPES et une nouvelle agrégation. Par contre, on change complètement la perspective de l'enseignement du dessin. Et cette perspective serait remplacée par ce qu'on appelle aujourd'hui les arts plastiques, c'est-à-dire des gens qui enseignent à la fois une pratique ou des pratiques du dessin, etc. Et en même temps, qui ont un bagage d'histoire de l'art suffisant pour être aussi là, dans le but, je dirais, de former le regard de l'enfant. Et ça a emporté l'adhésion du ministre et, je dirais, surtout des responsables de l'administration ministérielle, parce qu'encore une fois, ça ne créait pas de diplôme nouveau. Et puis, ce qui devait arriver est arrivé. Au début, la formation des professeurs d'art plastique était assurée aux deux tiers par des historiens de l'art dans l'université et au tiers par des professeurs de dessin. Donc la pratique occupait au fond peu. Et peu à peu, ça s'est développé dans le sens tout à fait inverse. Et on a mis en place un enseignement des arts plastiques, d'abord pour la formation des professeurs, donc pour la préparation du CAPES et de l'agrégation, qui mettait essentiellement l'accent sur la créativité. Bien sûr, il y a une dissertation, mais quand même, c'est l'essentiel, ce sont des dossiers plastiques. Quand on recrute des étudiants d'art plastique, on ne leur demande pas s'ils savent écrire, on leur demande s'ils savent dessiner ou pas. Et ça correspond, à mon avis, à ce que j'appelle cette espèce de religion de la créativité, où il s'agit de mettre en avant la possibilité que votre enfant devienne finalement un petit Picasso ou un petit Matisse, que nous avons tous en nous du génie, que nous sommes tous capables d'eux, etc. Tout ce discours qu'on entend maintenant depuis très longtemps et qui est une supercherie absolue, absolue. Parce que le problème n'est pas de faire croire à des enfants que, en apprenant à dessiner des cônes avec des ombres ou une pomme sur la table, on sera, dans le premier cas, Ingre, dans le deuxième cas, Cézanne. Le problème, c'est que ces enfants ont beau faire cela, ils sortent de l'école, ils sont frappés d'une totale cécité devant les œuvres d'art. Ils ne savent pas regarder.
Au contraire, est-ce qu'ils ne savent pas justement regarder un peu l'originalité de l'œuvre, puisqu'ils ont eux-mêmes pratiqué une forme de peinture, au contraire d'un discours tout fait qu'ils ingurgiteraient
Oui, là, je suis bien d'accord avec vous, il ne s'agit justement pas d'un discours tout fait. Une vraie formation passe, je dirais, par une sorte de maïeutique, où il s'agit, de ce que je préconise d'ailleurs dans mon livre, c'est de, là aussi, de bouleverser les structures actuelles des services éducatifs, qui laissent beaucoup trop de place au discours sur l'œuvre d'art par le maître, ou par le substitut du maître, qui est le responsable du service éducatif. Et qu'il faut au contraire laisser venir la parole des enfants devant les œuvres. Mais ça, c'est très intimidant quand vous avez, non pas devant vous un Cézanne ou un Picasso, pas du tout. Ça, je peux vous l'assurer, j'ai fait des expériences de ce genre dans les musées de Strasbourg quand je les dirigeais. Les enfants ont une approche spontanée, extraordinaire de l'œuvre contemporaine. Mmh. Ils n'ont pas ces a priori qu'ont les adultes, ils n'ont pas cette sorte de censure qui frappe tel type d'œuvre parce que moi je pourrais en faire autant, vous savez, le discours. Pas du tout. Ils sont il y a une liberté du regard extraordinaire. Et ça, c'est très vite, j'allais dire, bâillonné, parce que c'est en même temps l'impossibilité de parler des œuvres, puisque ce qu'ils peuvent en dire, c'est sans intérêt, on va leur apprendre ce qu'il faut en dire. Donc c'est là qu'il faut absolument réformer les choses. Mais ça, c'est une école du regard. Et l'école du regard ne passe pas du tout par le fait d'ingurgiter des dates ou une liste des chefs-d'œuvre. D'ailleurs, un inspecteur de l'éducation nationale, il y a quelques années, il a voulu faire une anthologie des chefs-d'œuvre. Voilà, 100 chefs-d'œuvre à connaître. Mais c'est une aberration absolue. Il ne s'agit pas de connaître 100 chefs-d'œuvre. Il s'agit de savoir pourquoi la maison, l'immeuble qui est là est beau, intéressant, pourquoi tel tracé urbain a quelque chose d'exaltant et au contraire un autre ne l'a pas, parce qu'on emmène les enfants dans la rue, parce qu'on les fait voir des choses, des maisons, des architectures. Vous voyez, je crois que c'est comme ça qu'on apprend. Et les dates, l'histoire, tout, bien sûr, mais ça vient, je dirais presque, de surcroît. C'est donné de surcroît. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est de laisser le regard suffisamment libre. Or, évidemment, aujourd'hui, nous sommes dans une société où le regard est contraint par tout ce qu'on connaît, aussi bien par le net, par la télévision, télévision qui est d'une nocivité redoutable, même par la publicité. Enfin, il y a tout un système d'images extrêmement pernicieux qui fait que, en effet, les œuvres d'art, si elles émergent dans tout cela, c'est en général sous la forme de copies ou de reproductions ou de photographies ou numérisées, mais pas l'œuvre authentique. Donc, donner aussi, dans cette leçon du regard, l'envie aux enfants d'aller voir. J'allais presque parler d'une espèce de pèlerinage laïque en allant dans le musée le plus proche, qui a deux ou trois œuvres, il y a toujours des œuvres intéressantes, quelles qu'elles soient, à voir, ou d'aller voir telle maison, tel édifice ancien, tel mur d'enceinte d'une ville. Enfin, je crois que c'est ça, l'apprentissage du regard.
Mmh. Un apprentissage utile dans une société de l'image, effectivement, télévisée, et l'image politique aussi, qu'on doit apprendre à décrypter, évidemment.
Exactement. C'est la leçon du regard, enfin, l'apprentissage du regard, pour moi, c'est l'apprentissage d'un regard critique. Mais surtout, du coup, évidemment, s'il se porte sur les œuvres d'une façon active, non pas un regard passif, mais un regard actif, il va se poser d'une manière active sur tout le reste. C'est pour ça que je pense profondément que l'histoire de l'art est une nécessité civique. Et je pense aussi que si c'est une nécessité civique, c'est qu'elle représente aussi, d'une certaine façon, elle peut représenter un danger pour le politique. Parce que l'apprentissage du regard, c'est apprendre tout un ensemble de possibilités qui nous sont données naturellement, je dirais, mais à s'en servir d'une manière culturelle, dans le domaine de la culture, en général. Et donc, c'est la naissance de l'esprit critique. Mmh. Or, est-ce que c'est souhaité ?
Et là, nous revenons au paradoxe, qui est que l'histoire de l'art est certes très peu enseignée, et pourtant, nombre d'étudiants se précipitent en histoire de l'art à l'université.
Eh oui.
Et vous, vous êtes chargé d'ailleurs de les former. Et c'est un paradoxe qui, là aussi, dans la société, on revient au paradoxe du début. Comment vous, en tant qu'historien d'art, vous pouvez justement influer sur, devant ce nombre d'étudiants, que pouvez-vous faire?
Bah, vous savez, je n'ai plus d'étudiants au Collège de France, ce qui est dommage. Enfin bon, c'est autre chose. Mais quand j'étais encore à l'université, il n'y a pas si longtemps, je crois que la meilleure façon d'exercer une influence et de limiter d'une certaine manière le flux des étudiants en histoire de l'art, c'est d'être extrêmement exigeant. D'abord, bien sûr, vis-à-vis de soi-même, dans l'enseignement que l'on produit, de placer les choses à un niveau de réflexion suffisant pour que ça ne ressemble pas à, je ne sais pas moi, une présentation superficielle. Et puis ensuite, évidemment, d'être exigeant avec les étudiants. Ce qui fait que, assez vite, il faut quand même passer la première année, qui est en général assez lourde, mais après la première année, je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se rendent compte que finalement, ce n'est pas leur voie, que l'histoire de l'art, ce n'est pas plus facile qu'une autre discipline, que simplement, ça leur paraissait plus facile. Pourquoi ? Parce qu'au lycée, on ne l'enseigne pas. Donc, arrivant à l'université, après tout, si on fait de l'histoire de l'art, on est tous au même niveau. Donc, on a des chances, après avoir passé peut-être un baccalauréat pas très brillant, on a des chances de s'engager sur une voie qui est plus facile. Or ça, c'est une erreur fondamentale. Mmh. Très vite, les gens s'aperçoivent qu'en histoire de l'art, il faut d'énormes connaissances dans de très nombreux domaines, domaine de l'iconographie, la sociologie, la philosophie, de l'esthétique, l'histoire, bien entendu, dans les langues. C'est extrêmement compliqué. Quand les étudiants s'aperçoivent de ça, en général, ils se rendent compte qu'ils se sont peut-être fourvoyés. Mais moi, je regrette infiniment qu'il n'y ait pas une sélection, je le dis très net, c'est évidemment passé pour un affreux réactionnaire, mais je pense que, tout comme, vous savez, on dit toujours numerus clausus, on ne peut pas faire ça dans l'université française. Il faut quand même dire haut et fort au public que, dans l'université française, on pratique le numerus clausus. Il y a des disciplines dans lesquelles vous n'entrez pas si vous n'avez pas présenté un dossier. Et le dossier, il est jugé évidemment, par des professeurs. C'est le cas de la musique. Vous ne me faites pas de la musique.
La musicologie.
À la rigueur, un peu de musicologie encore, mais surtout, vous ne faites pas de musique et de musicologie si vous n'avez pas des connaissances techniques dans ce domaine. Mm-hmm. Bon, je pense que dans le domaine de l'histoire de l'art, ça pourrait être exactement la même chose. Il faudrait qu'on accepte qu'il y ait un certain nombre de tests pour savoir quelles sont réellement les envies, les attentes des étudiants, parce que souvent ils se trompent complètement sur la discipline, ils ne savent pas du tout ce que c'est. Ils s'engagent là-dedans avec une sorte d'obstination, s'apercevant au bout d'un certain moment que ce n'était pas ça. Donc, je pense qu'il faut avoir le courage, dans des disciplines aussi quand même difficiles, je crois que celle-là, de procéder à une sélection.
Mmh. Où l'on voit, comme on l'a vu dans le début de cet entretien, combien votre place en tant qu'historien d'art est compliquée dans une société qui a un grand appétit de culture, et ce qui engendre aussi une valeur fiduciaire de plus en plus grande. Vous, en tant qu'historien d'art, vous êtes un peu le gardien du temple ?
On est nécessairement un peu le gardien du temple, parce que Je dirais que si l'historien de l'art n'est plus le gardien du temple, les marchands s'en emparent complètement. Alors là, du coup, il n'y a plus de gardien du temple, et bientôt, il n'y aura plus de temple. Il faut bien dire les choses comme elles sont, parce que les marchands sont extrêmement, tout à fait redoutables. Alors, on va quitter cette métaphore biblique, mais je pense que nous devons être, par l'étude, par le travail sur les œuvres, les défenseurs vigilants de ce qu'est l'enjeu patrimonial, par exemple, ou de ce qu'est l'enjeu muséal. Nous devons, par nos travaux, constamment, je dirais, complète, confirme ou au contraire renouvelle la vision qu'on peut avoir sur un champ de l'art, eh bien que ces travaux mènent de plus à une sensibilisation, pas forcément du grand public, parce que elle se fera, mais elle viendra plus tard. Vous savez bien que les choses se font par étapes, par étages, mais une sensibilisation aux élites, qui elles, dont les élites politiques, qui sont, elles, les premières en mesure de prendre des décisions concernant ce patrimoine. Donc, je crois que s'il y a une sorte de respect, d'écoute mutuelle, les historiens de l'art apprendront aussi à respecter les politiques, et les politiques devraient en effet commencer par respecter le travail qui se fait d'une manière générale sur le patrimoine, parce que c'est grâce à ce travail que finalement ce patrimoine continue d'exister et leur permet de temps en temps d'attirer dans les châteaux dont ils ont la responsabilité pas mal de visiteurs, par exemple.
À quoi sert l'histoire de l'art ou à quoi sert l'historien d'art? C'est donc la question qui était posée aujourd'hui et la question que vous posez dans le livre qui est sorti aux éditions Textuelles dans un entretien avec Claire Barbillon. Merci beaucoup Laurent Recht d'être venu vous entretenir sur Canal Académie.
C'est moi qui vous remercie.